Europe Midi, votre journal.
12h30, 14h.
Pierre de Villeneuve.
Et en public, vos questions également au 39-21 standard d'Europe 1. Retour donc sur ces mots de Manuel Valls hier. La mortalité routière est en baisse, même si le chiffre prévisionnel pour 2013, 3200 à 3300 morts sur les routes, reste une terrible donnée. Cela représente tout de même une baisse de 10% par rapport à l'année 2012. Le ministre de l'Intérieur souhaite d'ailleurs, vous l'avez entendu, aller beaucoup plus loin, diviser par deux cette statistique d'ici à 2020. Comment ? Toute une batterie de mesures est à l'étude, avec notamment l'antidémarreur dans les voitures, censé mesurer l'alcoolémie. De nouveaux radars, de nouvelles limitations de vitesse, encore, tout cela intervient alors que la voiture n'est plus, on l'a vu sur les études, n'est plus un objet de désir, c'est un futur objet de partage, un objet pratique, communautaire et nullement plus de plaisir. Bonjour Eric Decomont.
Bonjour.
Avocat spécialisé en droit routier, on est sur la bonne pente pour faire baisser la mortalité encore plus. Est-ce que ça veut dire que les automobilistes ont changé de mentalité ?
C'est pas exclu et je crois que ça fait déjà un certain temps que ça a commencé parce qu'en fait le changement de mentalité des automobilistes il est réel, on s'en rend compte notamment dans les rapports avec les usagers plus fragiles, avec les deux roues, avec les piétons en ville, dans la façon de laisser passer les piétons par exemple, et tout ça moi je le date de 2002. C'est-à-dire l'époque.
Ah oui, une décennie.
Ah oui, une décennie, c'est-à-dire l'époque à laquelle le président de la République Jacques Chirac inaugurant son deuxième mandat, le quinquennat, avait annoncé qu'il faisait de la sécurité routière l'une des trois grandes causes de son mandat, avec, je crois, l'aide aux handicapés, il devait y avoir une troisième chose, et qui avait, en quelque sorte, j'allais dire, réveillé les consciences et sifflé la fin de la récréation en disant « il va falloir que nous nous comportions différemment ». Et on avait eu comme conséquence un résultat formidable, c'est-à-dire qu'on en avait eu une baisse de la mortalité dont on peut aujourd'hui rêver, parce que on ne l'a jamais retrouvée depuis. Sur 2002 et 2003, on a eu une descente de la mortalité routière bien supérieure à ce qui a pu se passer depuis 2004 et l'entrée et la montée en puissance de tous les radars automatiques.
De
par
quel
exemple.
Ordre cette baisse ?
À l'époque, c'était plus de 10%. Je peux vous donner le chiffre exact sur les deux années en question. Il était de 13,53%.
Et c'était du jamais vu.
Et c'était du jamais vu auparavant. Et depuis, on est sur une baisse de environ 5 à 6% par an. Là, un 10%, ça serait sympathique. Il faut bien sûr prendre ces chiffres avec un peu de recul, puisque vous savez qu'on ne peut pas avoir des chiffres fiables le lendemain de la fin de l'année. Ce sont des tendances, mais en général, ces tendances sont confirmées dans les grandes lignes lorsqu'on aura les chiffres définitifs, c'est-à-dire, je pense, début février.
Beaucoup de questions pour vous, Maître Eric Decomont. Vincent nous appelle. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je suis acteur de la sécurité routière, parce que je suis pompier professionnel dans une grande ville de France.
Laquelle ?
Aix-en-Provence. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté au problème de la sécurité routière, des accidents de la route. Et je pense qu'il est important, pour faire baisser, c'est vrai que les mentalités ont beaucoup évolué, il faut faire comprendre aux gens que ça arrive pas qu'aux autres, déjà. Ça arrive à tout le monde. Et surtout, je pense que pour pouvoir augmenter un peu faire diminuer ce taux, il faudrait faire passer aux plus jeunes des formations de premiers secours et peut-être faire intervenir lors du passage du permis de conduire des gens qui sont confrontés aux accidents de la route, la police, la gendarmerie, les pompiers, lors de l'apprentissage du permis de conduire.
Maître Eric Decomont, au-delà du triangle et du gilet, c'est quand même pas mal d'apprendre aux gens.
C'est une excellente idée, et puis c'est une idée qui vient manifestement de quelqu'un qui parle de ce qu'il connaît. Ce qui n'est pas toujours le cas de nos politiques, qui sont souvent plus préoccupés par des notions électorales ou démagogiques que par des notions de réelles pratiques de sécurité routière. On pourra en reparler, si vous voulez, quant aux choix qui sont faits, par exemple, des appareils automatiques qu'on multiplie.
Les radars,
et qui prennent les photos de dos, ce qui ne permet pas d'identifier les conducteurs, donc leur laisse une impunité totale. Alors que là, on a un discours concret. C'est à rapprocher, vous voyez, je vais vous dire tout de suite, et vous le savez, que je ne suis pas un chaud partisan de la politique de répression routière, quel que soit d'ailleurs le gouvernement et sa couleur politique. Il n'y a pas de choix de ma part.
C'est
là-dessus.
La raison pour laquelle vous êtes là.
C'est d'ailleurs pour ça que je crois être là, effectivement. Et je ne conteste pas tout. Vous voyez, le discours qui est en train de tenir cet auditeur m'intéresse beaucoup et il se rapproche un petit peu des spots qu'on a beaucoup entendus ces derniers temps qui consistaient à dire quand on aime quelqu'un on le retient. Vous savez à propos de ces fêtes
Absolument.
De fin d'année où on disait grosso modo il faut parfois s'immiscer dans la vie privée de quelqu'un en disant non je vais pas te laisser partir, j'ai pas envie d'apprendre que tu t'es tué et que je suis un petit peu moralement responsable. Ça, c'est du constructif, ça c'est quelque chose de positif, c'est de l'éducation, c'est de la prévention et c'est beaucoup plus intéressant que ce qui s'était passé il y a une dizaine d'années où on cherchait à tout prix à poursuivre en justice, vous m'avez bien entendu, poursuivre en justice, en correctionnel, les gens qui n'avait pas réussi à empêcher quelqu'un de partir lorsque la personne avait eu un accident après pour complicité de conduite sous l'empire d'un alcoolique. C'était débile, ce qui juridiquement ne pouvait pas marcher. Par contre, ce genre de politique de prévention, ces spots répétés en disant « vous aimez quelqu'un, empêchez-le de se tuer », bah, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent.
Cela dit, la répression a fait prendre conscience des dangers de la route.
Je ne suis pas sûr que ce soit la répression. Avec Jacques Chirac, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, en 2 ans, on a eu des chiffres qu'on n'a jamais atteints depuis et il n'a pas été question de monter la répression.
Ça a continué à baisser. Je veux dire, aujourd'hui, on roule à 130 parce qu'on sait qu'on va se faire flasher.
Alors, on roule à 130 quand on n'est pas organisé. Parce que, je vais vous dire quelque chose de très dur, oui. Mais c'est que ceux qui savent s'organiser ne roulent pas à 130.
Ça veut dire quoi s'organiser? C'est avoir un coyote?
Je ne citerai pas de nom.
Il y a quelqu'un qui a dit un oui. Hein.
Je ne citerai pas de nom.
Pas oui, mais vous dites ça comme si c'était. Vous en avez plusieurs, vous d'ailleurs, toutes vos voitures.
J'en ai plusieurs.
Bon, voilà. Donc, mais tous les gens, tous les gens qui ont des coyotes, mais effectivement, les assistants d'aide à la conduite, je crois que c'est le terme qu'on utilise à l'heure actuelle, mais pas seulement. En d'autres termes, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que effectivement, il y a manifestement une volonté qui est faite d'une répression. Qui est le premier moyen utilisé, et je le déplore d'autant plus qu'on pourra en parler aussi, on réprime essentiellement la vitesse. Or, ce n'est pas la principale cause de mortalité sur la route, c'est l'alcoolémie.
Oui, Leroy l'a dit, un tiers.
Et l'alcoolémie, on peut en parler de la façon dont c'est réprimé. Vous voyez, c'est intelligemment prévenu par ces spots qui disent ne conduisez pas, ne laissez pas partir quelqu'un qui a trop bu. Mais en termes de répression, c'était quand même assez intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes bien organisé, puisque les pouvoirs publics font le choix et ils persistent
bien
dans
ou
cette
mal,
erreur.
Quand on est organisé, parce que là, vous prenez parti.
Ils sont organisés. Ouais. Bon. Quand les pouvoirs publics, de tout poil, hein, encore une fois, gauche-droite, c'est la même chose, font le choix des radars automatiques, premièrement, plutôt que des contrôles avec interception, et font le choix de prendre les photos de dos. Radar de feu rouge, 100% de dos. Radar de vitesse, 80% de dos. Pourquoi ? Pour ne pas rater les motards qui n'ont pas de plaque à l'avant. Et pour ne pas donner à ceux qui ne roulent pas dans leur voiture un alibi, la preuve, puisque ce n'est pas eux qui sont au volant, je vous passe les détails, c'est un peu compliqué. Mais ce faisant, ils servent sur un plateau à toute personne qui sait juste dire « c'est pas moi », l'impunité totale en matière de sanctions routières.
Et après, au contentieux, ça donne quoi ?
Au contentieux, ça donne un 100% de réussite. Parce que c'est au pouvoir public, c'est au parquet en l'occurrence, à la police si vous préférez, de prouver qui conduisait. Vous prenez une photo de dos, vous prouvez rien. Il suffit de répondre, c'est pas moi qui conduisais, vous êtes à l'abri. Par contre, avec la loi Guesso, vous payez une amende fiscale. Et c'est ce qui fait que les radars automatiques ont ramené 800 millions d'euros l'avant-dernière année.
Des questions pour vous au standard d'Europe 1. Et j'interrogerai monsieur tout à l'heure qui n'arrête pas de dire non de la tête à ce que vous dites, Eric Decomont. D'abord, je voudrais rejoindre Joseph qui nous appelle du Loiret. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Vous avez été gendarme pendant 35 ans, me dit-on.
Oui, tout à fait. J'étais gendarme, j'ai fini commandant de brigade. Et je suis un peu d'accord avec Maître Comont. Bonjour Maître.
Bonjour monsieur.
Parce que aujourd'hui, pour moi, tout ça, c'est de l'impôt déguisé. Les radars ont eu un effet évident sur la conduite des gens, mais surtout, ça ramène de l'argent. Alors le radar, moi je suis pour, à la seule condition et unique condition, c'est que ce soit mis dans des positions, dans les endroits intelligents et notamment les endroits accidentogènes. Force est de constater qu'on met des radars, la plupart, hein, parce qu'il y a quand même des gens intelligents de temps en temps, mais la plupart sont placés dans les endroits où on va contrôler le maximum de gens de façon à verbaliser le maximum.
C'est quoi un endroit inintelligent ?
Alors, l'endroit inintelligent, c'est dans un petit bourg où la vitesse tombe tout d'un coup à 50 km/h ou un truc quoi, et vous êtes traversé par une 4 voies. Moi, j'étais commandant de brigade dans une petite ville, un endroit où la vitesse était 50 km/h était inappropriée. Avec le maire de la commune, j'ai réussi à la faire mettre à 70, ce qui me paraissait plus logique. Évitons que les gens prennent ça comme de l'impôt déguisé. Il existe de surcroît 4 catégories d'infractions, voire 5. Pourquoi ne pas verbaliser quelqu'un pour 5 km/h au-dessus par une C1, par une C2, etc., etc. Non, c'est toujours 90 € de façon à ramener de l'argent.
Les C1, les C2, c'est des contraventions.
Le niveau de contravention.
Oui. Merci beaucoup, Joseph, de votre réflexion. Je pense que Maître Éric Decomont avait déjà répondu à cette question un peu avant. Monsieur a une question dans le public ?
Oui, moi j'avais une question. Bonjour, Maître.
Bonjour, monsieur.
Alors, l'alcool, la vitesse, ce sont les grands critères. Moi, j'en vois un autre aussi, c'est en ville, Paris et grande ville. Il y a de plus en plus de deux roues. Je circule en deux roues et je vois un nombre incalculable de gens qui téléphonent et qui font des SMS. Et j'ai
dans les voitures ou sur les deux roues?
Non, pas sur les deux roues, j'en vois peu sur les deux roues, mais dans les voitures. Ce qui fait que les gens ne vous voient pas arriver, et c'est hyper dangereux. Et je me demande pourquoi on ne met pas dans les voitures des systèmes de brouillage. Il existe un système contre l'alcoolémie pour vous éviter de démarrer. Est-ce qu'on peut pas mettre, comme dans les cinémas par exemple, un système qui fasse que on ne puisse pas utiliser son téléphone, excepté si on a un Bluetooth ou un truc particulier?
La réponse ne m'appartient pas. Elle appartient aux constructeurs, aux fabricants de voitures, éventuellement aux fabricants d'appareils téléphoniques. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, la question est différente selon que l'on est en ville ou que l'on est sur route. Il est évident que beaucoup de gens, notamment qui se servent de leur téléphone sans leur kit piéton ou qui envoient des SMS effectivement en conduisant, sont complètement déconcentrés de la conduite. Et je peux vous dire, moi aussi, je fais 40 ans que je suis motard, je suis venu en moto tout de suite et que je suis extrêmement sensible au comportement erratique de certains automobilistes. Et c'est vrai, vous avez totalement raison, que parfois quand on voit quelqu'un qui devant vous fait n'importe quoi, je ne vais pas dire à chaque fois, mais une fois sur trois, une fois sur quatre, il était avec le téléphone à l'oreille, il ne sait plus où il habite, quoi. Il fait n'importe quoi.
Et bon. Ça représente une niche dans les contentieux. Ça,
mais effectivement, c'est très faible. Et objectivement, d'après ce qui a pu être objectivé, j'allais dire, par toutes les enquêtes, on ne peut pas dire que ça soit la principale cause de mortalité. Mais vous avez raison sur un point. C'est qu'à force de dire la vitesse, la répression, on en oublie.
C'est ce que dit Mme Perrichon, par
absolument,
exemple.
Absolument, mais pour laquelle j'ai le plus grand respect, mais vous savez que nous n'avons pas tout à fait les mêmes opinions.
Vous n'avez pas les mêmes opinions.
Bon, à force de tout focaliser sur un problème qui n'est plus la cause numéro un de mortalité, ni sur les routes, ni encore moins sur les autoroutes, où elle est passée en troisième position, largement derrière, notamment la somnolence, eh bien, on perd, j'allais dire, cette intelligence et cette ouverture d'esprit qui peuvent permettre de réfléchir à quelles sont les autres voies
donc,
pour améliorer
donc
la sécurité.
Donc, l'antidébarreur pour l'alcoolémie, bonne idée,
à condition de savoir là aussi de quoi, comment on va s'en servir, ce qu'on va en faire. Il est question de le faire, mais ça existe déjà pour les personnes qui ont été condamnées pour alcoolémie, dont on veut éviter qu'elles récidivent. Et après ça, la question se posera de savoir si c'est one shot, si c'est au moment de démarrer, auquel un copain peut souffler, ou si c'est, comme ça existe déjà aux États-Unis, un système qui réinitialise toutes les 15 minutes. Et si toutes les 15 minutes, vous soufflez pas à jeun, si j'ose dire, la voiture s'arrête et là, il faut emmener le copain avec vous.
Merci Eric Decaumont d'avoir été avec nous en direct.